comme vous le... Alors, on a décidé d'appeler cette table ronde « Comment savons-nous que nous avons un problème écologique global ?» Donc, sous-entendu, ça ne va pas de soi. Ça suppose qu'il y ait des outils pour le mesurer, des perceptions, des mesures, des quantifications, des ordinateurs, des satellites, des communautés scientifiques, des conférences internationales. Donc, tout un appareil... technique et sociale qui positionne un certain nombre de phénomènes, de processus comme des problèmes devant être traités à l'échelle internationale comme ayant une dimension planétaire, comme ayant une dimension globale. Et donc c'est cet ensemble de dispositifs et de processus par lesquels nous savons que nous avons un problème environnemental global que nous allons interroger. On a repris le titre à un article qui datait déjà de 1992 d'un écologue et d'un sociologue qui avait appelé ça « How do we know we have environmental problems ?» et qui se posait cette question-là, qui est un ensemble, un domaine de recherche qui a été approfondi par beaucoup d'autres chercheurs depuis. Donc ce qu'on va essayer, c'est de vulgariser, de discuter, d'illustrer, de prolonger par les recherches en cours de nos trois intervenants ce type de questions. Alors comme vous le savez, il y a quelques jours seulement, les laboratoires français de climatologie ont annoncé qu'ils avaient lancé de nouvelles modélisations du changement climatique global en préparation de ce qu'ils vont mettre en œuvre et publier avant le prochain rapport du GIEC, et qui annonçait que dans leur nouveau modèle, on atteindra les plus 2 degrés de hausse de température globale du globe dès 2040, alors que l'objectif était de ne pas y arriver à la conférence de Paris en 2015, et que le scénario business as usual, c'est-à-dire si on continue dans la même trajectoire que les dernières décennies, sous le nom de développement durable depuis les années 80, on arrivera à plus 7 degrés de hausse de température de la planète en 2100. Vous savez aussi que depuis 4-5 ans, il y a un ensemble de scientifiques qui se reconnaissent comme faisant partie d'un domaine qu'ils appellent les sciences du système Terre, qui ont publié dans les plus grandes revues scientifiques l'idée qu'il y aurait 9 planetary boundaries, des frontières planétaires, 9 paramètres de l'état de la planète pour lesquels il ne faudrait pas dépasser un certain seuil de dérèglement, si vous voulez, de dépassement d'une certaine quantité de forêts détruites, une certaine quantité de biodiversité détruite, certaines températures, hausse de température à ne pas dépasser, etc. Sans quoi, si on dépassait ces frontières-là, se poserait la question de l'habitabilité de la planète pour l'humanité. Vous voyez les grands mots, la planète, l'humanité, l'habitabilité, qui finalement commence à prendre la place de la question de la durabilité. On passe des interrogations sur la durabilité à des interrogations sur l'habitabilité, qui est une forme de planétarisation de notre questionnement sur les devenirs des sociétés humaines. Et puis, si on remonte un peu plus loin, on va remonter beaucoup plus loin tout à l'heure, c'est depuis 1972 qu'est apparue une modélisation de l'ensemble du fonctionnement des sociétés humaines, du système économique, industriel, les pollutions, les déchets, l'usage des ressources, à l'intérieur de l'ensemble de la biosphère et des fonctionnements terrestres, et qui a donné lieu dès 1972, après une grande modélisation dans un super ordinateur du MIT, au rapport Limits to Growth, les limites de la croissance, auprès du Club de Rome, qui était sorti en 1972 et qui avait alimenté tout un ensemble de débats sur l'effondrement des sociétés industrielles. On emploie déjà ce terme-là dans le nouvel obs de l'époque. Et donc, rien qu'en prenant ces trois exemples-là, la température globale du globe, les 9 limites, les 9 frontières planétaires et le modèle du Club de Rome, il est évident que depuis quelques années et quelques décennies, par cet ensemble de savoirs techniques, scientifiques, outillées par des satellites, par des superordinateurs, par des milliers de travail de doctorants, le devenir des sociétés humaines apparaît de plus en plus encastré, contraint par un certain nombre de fonctionnements du système Terre qui posent un certain nombre de contraintes et de déterminismes biophysiques au devenir des sociétés humaines. Alors, par rapport à ça, que peuvent apporter les sciences humaines et sociales? C'est un petit peu ce dont on va parler, avec des intervenants qui viennent de deux laboratoires, l'un qui est le centre de recherche historique, donc à l'école des hautes études, et l'autre qui est le centre Alexandre Coiré. Alors, dans le centre de recherche historique, il y a tout un groupe qui s'appelle le GREN d'histoire environnementale, et dans le centre Coiré, qui est un laboratoire d'histoire des sciences et d'études des sciences, il y a également plusieurs chercheuses et chercheurs qui s'intéressent à l'interface sciences, technique, environnement, société. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans une perspective de sciences humaines et sociales face à cette planétarisation de la façon dont on perçoit le devenir des sociétés? Le premier point, il me semble, c'est que ces données qui sont mises en avant par ces chercheurs dans les rapports du GIEC, dans toute une série de publications, sont extrêmement solides, sont extrêmement alarmantes, sont extrêmement contraignantes. On ne peut pas juste les jeter d'une pichenette, comme sur cette affiche, où on a l'impression que finalement, on va se débarrasser de la nature par un petit coup de génie des sciences humaines et sociales et sa puissance à déconstruire toute forme de naturalisation qui s'opère dans les processus sociaux. Nous, en sciences humaines et sociales, on est au-dessus de ça et on va déconstruire l'idée même, la catégorie de nature. Oui, la catégorie de nature est à déconstruire, et je vois qu'il y a Philippe Descola dans la salle, mais par contre, le panel qui est présent aujourd'hui ne va pas vous proposer de totalement ne pas tenir compte, considérer comme nul et non avenu tous les travaux des sciences du système Terre, de la climatologie, de l'écologie globale, de la géologie, qui nous produisent un certain nombre de données sur les dérèglements planétaires. On ne peut pas s'en tenir en tant que science humaine et sociale à une posture de déconstruction, à dire ah oui, mais ce discours sur l'environnement global n'est qu'une construction, il n'y a pas de problème, c'est une forme de naturalisation dangereuse qui contraint les marges de manœuvre politiques, etc. On ne peut pas se limiter là étant donné les situations de dérèglement que nous connaissons et dans notre dialogue avec les sciences de la vie, de la Terre. Je ne pense pas que ce soit une posture suffisante. D'autant plus que cette idée même de dérèglement climatique, de crise écologique qui a pris une telle ampleur dans le temps et dans l'espace que les scientifiques nous proposent même d'inventer un nouveau terme après l'Holocène, parce qu'ils nous disent qu'on est sorti des cadres et des fourchettes de l'état de la Terre pendant les 12 000 dernières années et qu'on rentre dans une autre époque de la planète. Ce dérèglement, ce déraillement dans l'histoire de la Terre vient percuter, vient réfuter, vient questionner toute une série de valeurs et de croyances de notre modernité. Et notamment une valeur fondamentale, depuis au moins deux siècles, c'est l'idée du progrès. C'est l'idée que les sociétés humaines du futur vont être encore plus libres de définir par elles-mêmes leur devenir, vont être encore plus émancipées de toute contrainte biologique, naturelle, vont être encore plus émancipées des déterminismes hérités du passé. Hein. Souvenez-vous, du passé, faisons table rase. Il y a l'idée que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, au 19e siècle, Marx, etc., si il n'y a pas une autodétermination absolue des sociétés à ce moment-là, dans le futur, dans le XXe siècle ou XXIe siècle tel que Marx le rêvait, les sociétés se construiraient par elles-mêmes, ne dépendraient plus du passé, ne dépendraient plus de toutes ces contraintes du naturel et du passé. Or, qu'est-ce qui se passe avec les évolutions actuelles de la planète ? Les sociétés de la fin du XXIe siècle, pour savoir si elles auront une planète à plus 4, plus 5, plus 6 ou plus 7 degrés, et donc un niveau de hausse des océans qui sera de 50 cm ou de 1,40 m, et donc s'il va falloir évacuer 500 millions de personnes ou beaucoup plus dans les villes, dans les vallées et les deltas du Nil, du Gange, etc. Parce que 50 cm, c'est plusieurs centaines, 50 cm de hausse des océans, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui doivent quitter leur foyer. Donc ce fait de savoir quelles seront les marges de manœuvre des sociétés de la fin du XXIe siècle, quelles seront les marges d'habitabilité de telle ou telle région sur Terre en 2100, ce choix-là ne sera pas le fait des sociétés de la fin du XXIe siècle. Ce n'est pas eux qui vont déterminer. Ça va être des marges de manœuvre qui vont se restreindre et qui résulteront des choix des sociétés antérieures à elles, c'est-à-dire de nous aujourd'hui. C'est-à-dire que les sociétés de 2100 auront peut-être moins de marge de manœuvre pour s'auto-déterminer, pour fabriquer leur propre devenir, que nous en avons aujourd'hui. C'est tout le contraire de la promesse de la modernité, où au contraire, on faisait la promesse, où on avait l'espoir que les sociétés futures auraient plus de marge de liberté, plus de marge d'autodétermination pour s'auto-construire, s'auto-déterminer par elles-mêmes. Donc quelque part, la promesse d'autodétermination du social, qui est une promesse fondamentale de la modernité, se heurte à ce mur des dérèglements climatiques qu'on a aujourd'hui. Or, cette promesse de l'autodétermination du social, elle a été fondamentale dans la naissance des sciences sociales. Durkheim, l'importance, on n'explique un fait social qu'avec un autre fait social. Hein ? C'est le moment où les sciences sociales s'émancipent de l'anthropologie biologique, des discours sur les déterminismes climatiques, sur les formes sociales, politiques et culturelles des sociétés. Ça a été un moment très important pour le développement des sciences humaines et sociales, mais qui a été basé sur cette hypothèse ou cette croyance dans l'autodétermination des sociétés et qui a fait qu'on a eu tendance en sciences sociales à n'expliquer le devenir des sociétés humaines, en tout cas les plus avancées, les plus civilisées, parce que lorsqu'on étudiait des sociétés primitives ou médiévales, par exemple pour les historiens, là on faisait des grandes parties sur le milieu, les déterminismes et les contraintes posées par le milieu, mais plus on pensait que les sociétés étaient avancées, développées et civilisées, plus on pensait qu'elles étaient arrachées aux contraintes du milieu et que donc il n'était plus très pertinent pour penser leur devenir de prendre en compte ces matérialités, ces mille boucles de rétroaction entre humains et non-humains pour expliquer le social. Donc ces travaux des sciences du système Terre qui nous posent des limites de la planète, etc., viennent percuter une croyance de la modernité qui elle-même était assez fondamentale pour nos paradigmes dans les sciences humaines et sociales. Donc on ne peut pas se contenter de les déconstruire. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, malgré tout, reste entière un certain nombre de questionnements sur comment peut-on dire que nous avons un problème écologique global. Comment peut-on dire qu'il y a des limites globales quantifiées par des experts scientifiques que nous devrions, nous, société d'ici ou de là-bas, ne pas dépasser. Comment on peut dire d'emblée que tel problème est d'échelle planétaire, que c'est d'abord en produisant des savoirs à l'échelle planétaire ou des formes d'intervention politique à l'échelle planétaire qu'il faut penser les questions environnementales. Donc ça favorise une perception de nos questions environnementales d'un point de vue surplombant, d'un point de vue vu du ciel, vu de l'extérieur. Du coup, si on suit cette façon de nous représenter les problèmes écologiques de cette façon, ça veut dire qu'il y a des points de vue sur le monde, des points de vue sur les problèmes et des solutions qui seraient supérieures aux autres parce qu'elles seraient plus globales, qui seraient donc supérieures à des processus, à des transformations, à des alternatives qui, elles, se positionneraient à des échelles locales. Par exemple, dans cette vision, Emmanuel Macron peut dire que nous avons un droit d'ingérence climatique sur les forêts de l'Amazonie. Pourquoi il peut dire ça ? Parce que depuis les années 80, on s'est mis à se représenter les forêts amazoniennes non pas seulement comme des territoires localisés dans lesquels il y a une cohabitation de différents groupes humains, végétaux, animaux et microbiens qui sont parfois en conflit les uns avec les autres pour les usages de ces espaces, mais on s'est mis à se représenter l'Amazonie comme le poumon de la planète. Du coup, comme remplissant une fonction globale de capture du carbone de la planète. Et c'est au nom de cette construction de l'Amazonie comme un objet planétaire et non plus comme un objet ancré sur un lieu particulier que l'on peut dire que nous aurions un droit d'ingérence écologique sur ce qui se passe sur ce territoire-là et qui peut rappeler des formes d'ingérence du passé, notamment à l'époque, à des époques coloniales, sur laquelle on va trouver un certain nombre de discours des colonisateurs justifiant leur prise de possession de territoires coloniaux sous des arguments du meilleur usage de la nature, la meilleure mise en valeur, le meilleur usage durable au cours de l'histoire. Donc c'est malgré tout fort intéressant pour les sciences humaines et sociales d'analyser cette fabrique des savoirs et des pouvoirs du global dans les discours à propos de l'environnement, de se demander par quel savoir, par quelles mesures, par quels instruments, par quelles images, par quels discours on peut construire l'environnement comme global. Dans quel lieu ça se fait, dans quelles institutions, avec quels effets de pouvoir, quelles sont les voies, les processus qui sont du coup rendus saillants, rendus visibles, quels intérêts sont entendus dans cette façon de construire les choses comme globales, et inversement, quels sont les phénomènes, les voies et les intérêts qui sont tues, qui sont rendues invisibles par ce cadrage de l'environnement comme une question globale. Donc voilà un petit peu ce que nous vous proposons au menu, avec notamment rôle important de l'histoire pour venir questionner et dénaturaliser ces constructions de l'environnement global. Et on va faire les choses quasi chronologiquement, en commençant avec Jean-Baptiste Fressoz, qui est historien au Centre de recherche historique, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'Apocalypse joyeuse en 2012, d'un autre livre qu'il a écrit avec moi, qui s'appelle L'événement anthropocène, et qui prépare un prochain livre, qui va sortir l'année prochaine, qui est déjà écrit d'ailleurs, Les révoltes du ciel, une autre histoire du changement climatique, qui va donc s'intéresser à l'histoire des appréhensions du climat depuis le XVIIe siècle.
Bien, merci Christophe, bonjour à tous. Alors je vais vous parler très brièvement d'un livre que j'ai mis avec un collègue qui s'appelle Fabien Locher, 7 ans à écrire, donc je ne vais pas tout dire. Je vais simplement dire qu'une partie de ce qui motivait l'écriture de ce livre, qui est donc en fait un livre qui parle d'un grand cycle de débats sur le changement climatique qui a couru du XVIe au XIXe siècle, qui portait pas sur le cycle du carbone, mais qui portait sur le cycle de l'eau. Le sujet, c'était pas les émissions de CO2, c'était le fait qu'on coupe des arbres et que les arbres jouaient un rôle dans le cycle de l'eau et ça pouvait avoir des conséquences climatiques. Donc en gros, c'est ça le thème du livre. Un des aspects, qui motivait l'écriture de ce livre, c'était un discours contemporain qui vient des sciences dures, mais qu'on retrouve aussi beaucoup chez les philosophes et aussi chez les sociologues, qui est de dire on vit un moment quand même extraordinaire. On vit un moment de prise de conscience environnementale. Alors ce thème-là, il a été recyclé par toute une série de sociologues plus ou moins célèbres. Alors les plus célèbres, c'est par exemple Ulrich Beck qui explique qu'on est rentré dans une modernité réflexive. Et finalement, le discours de la réalisation du problème climatique et la montée en puissance au niveau médiatique et politique de ce qu'on appelle les sciences du système Terre, des disciplines qui s'intéressent justement à la question de la circulation de la matière, la question du changement climatique, les interactions entre la biosphère, l'atmosphère, etc. Toutes ces sciences très intégrées du globe, elles ont eu un discours très auto-congratulatoire, je ne sais pas si on peut dire ça, enfin très satisfait d'eux-mêmes en gros, qui est de dire on a fait une vraie révolution scientifique, on a fait un nouveau paradigme, quoi. On a créé une révolution cosmologique même. Et donc, par exemple, un des papes de ce domaine qui s'appelle Schellnhuber explique que le Earth System Analysis, les sciences du système Terre, c'est comme une seconde révolution copernicienne. Et ce discours-là a eu aussi énormément de succès parmi les philosophes, parce qu'évidemment, pour les philosophes, c'est très utile de dire on est en train de vivre un moment extraordinaire de révolution cosmologique, ontologique, parce que ça permet de justifier en quelque sorte leur travail, puisqu'ils doivent nous guider dans ce nouveau moment. Bon. Alors, ce discours-là de grande satisfaction, je trouve qu'il a un côté très dépolitisant, parce que c'est comme si finalement, maintenant qu'on a pris conscience, il va se passer tout plein de choses, quoi. De cette immense révolution d'idées, il va forcément découler tout plein d'autres révolutions utiles et indispensables. C'est impossible de faire de la bonne histoire avec ça, parce qu'évidemment, si nos ancêtres se fichaient complètement de l'environnement, la question de l'histoire environnementale n'a plus grand intérêt. Et politiquement, ça pose aussi un autre problème, c'est que la prétention de la nouveauté des savoirs, c'est aussi une prétention à agir sur la planète. Et très souvent, le discours autosatisfait des sciences du système Terre annonce deux choses, soit la géo-ingénierie, l'idée qu'on va pouvoir agir scientifiquement sur le système Terre pour régler le thermostat du globe, et c'est un petit peu quasiment ce que représente le dessin en dessous de... dans le texte de Schellnhuber, hein, le spécialiste des systèmes Terre comme médecin de la planète, médecin de Gaïa. Ça peut aussi annoncer des choses encore moins ragoûtantes, qui est le néo-malthusianisme. Et il y a un très fort courant néo-malthusien parmi ces grands spécialistes du système Terre, James Lovelock en étant un des exemples les plus marquants, qui explique dans son dernier livre que l'une des choses les plus utiles que peut faire l'Angleterre, qui est une île face au changement climatique, c'est d'augmenter ses dépenses dans la défense, puisqu'il faudra faire face aux hordes de réfugiés climatiques. La notion même de réfugiés climatiques est extrêmement problématique, parce que les démographes sérieux expliquent qu'a priori, le changement climatique, ça fera beaucoup de déplacés, mais ça fera peu de gens qui se déplacent entre des pays. Vient des écologues, en fait. C'est Norman Mayer, qui est un ami de James Lovelock, qui est aussi une des personnes importantes, si vous voulez, de ce milieu-là. Bon. Donc, c'est une partie du but du livre, c'est un petit peu d'insuffler un peu de modestie dans ce constat très satisfaisant de dire on est quand même bien plus savant, on est bien meilleur, on a beaucoup plus conscience des choses, on a vécu une révolution de type ontologique. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, et une manière, c'est par l'histoire des sciences. Simplement de faire remarquer que on pourrait avoir une vision téléologique du global, que le global, ce serait quelque chose qui émergerait au bout d'un long processus, que on serait instinctivement, on vivrait dans des environnements locaux et que ce serait grâce à deux siècles de science, ou surtout aux 50 derniers siècles des sciences de la physique du globe, qu'on pourrait parler d'environnement global. En fait, quand on regarde l'histoire des savoirs et l'histoire des intérêts philosophiques, on voit bien que le global est déjà là très tôt, en particulier dans un courant extrêmement important pour la naissance des sciences modernes, qui est la théologie naturelle. La théologie naturelle, en gros, pour faire très simple, c'est le créationnisme, l'idée qu'on va chercher dans la nature la preuve de l'existence d'un être infiniment supérieur qui a organisé la nature. Au sein de la théologie naturelle, il y a beaucoup de réflexions sur la Terre comme un système parfaitement intégré, et il y a un cycle de matière qui semble emblématique de cette vision de la Terre, c'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau qui est étudié depuis l'Antiquité, hein, Aristote parle du cycle de l'eau, par exemple, déjà, mais au moment du XVIIe siècle, en particulier en Angleterre, il y a beaucoup de réflexions sur le cycle de l'eau, et en gros, au XVIIe siècle, on a déjà les grands paramètres qu'on étudie encore de nos jours quand on étudie la biologie, hein, sur le cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau, c'est vraiment la preuve d'une intelligence supérieure qui a organisé la nature. Et par exemple, il est évident pour les philosophes naturels du 7e siècle que s'il y a de très, très vastes océans qui ne servent à rien, a priori, en fait, ces océans, ils servent à quoi ? Ils servent à créer de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, elle circule à l'échelle globale. Elle va se condenser sur les montagnes et sur les arbres, ça c'est le point important pour notre livre avec Fabien, sur les montagnes et sur les arbres, et c'est ça qui assure finalement la fertilité des zones tempérées. Il y a une connexion, par exemple, là on le voit très bien dans cette représentation du cycle de l'eau, il y a une connexion entre les océans de la zone tropicale et le fait qu'il y ait autant de pluie en Angleterre, par exemple. Alors, au sein de cette vision globale donc, du cycle de l'eau, à partir du XVIe, XVIIe siècle, en lien avec la colonisation de l'Amérique, je ne peux pas rentrer dans les détails, il y a une question qui intéresse beaucoup les philosophes naturels, les savants, c'est de dire finalement, c'est quoi le rôle de la végétation dans le cycle de l'eau et qu'est-ce que ça fait que de déforester à l'échelle où on est en train de déforester en Amérique du Nord, par exemple, ou en Amérique centrale. Le discours du changement climatique est d'abord très positif, très optimiste. C'est de dire, en déforestant, on améliore le climat. C'est une manière de justifier la prise de possession des terres de l'Amérique par les colons européens. On trouve ça en Nouvelle-Espagne, en Nouvelle-France, en Nouvelle-Angleterre. C'est à peu près toujours la même chose. C'est les Européens arrivent, le climat s'améliore, et ça, c'est un signe quand même que la prise de possession de la terre est justifiée, sanctifiée par Dieu. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce discours-là bascule à la fin du XVIIIe siècle pour tout un tas de raisons complexes. Et on va, pour des raisons qui sont assez françaises en vérité, c'est une histoire assez française à partir de là, c'est lié à la Révolution française et à l'angoisse de ce que la Révolution aurait fait sur les forêts. Il y a tout un discours, disons, de type gouvernement des masses, gouvernement de la paysannerie, de dire il faut respecter les forêts. Parce que si vous coupez trop de bois, vous allez dérégler le climat et donc attenter à vos propres récoltes. C'est une manière de gouverner, si vous voulez, les usages populaires de la nature après la Révolution. C'est lié à une crise forestière aussi. Je reviendrai sur ces slides après, désolé. C'est lié à une crise forestière. Il y a une grande angoisse à la fin du 8e siècle sur l'épuisement des forêts françaises. Et ça, par exemple, c'est un frontispice qui introduit un mémoire sur comment construire des cheminées plus efficaces. Une question assez basique d'efficacité énergétique, si vous voulez, comment se chauffer en consommant moins de bois, c'est relié à la question de la forêt française et c'est relié à la question de l'équilibre de la terre et que si on coupe les forêts, on coupe ce petit fil qui maintient la terre en équilibre et qui risque de tomber bien bas si on coupe ces forêts. Alors, il y a plusieurs points importants à faire. Le point, je dirais, le plus original dans ce qu'on a fait avec Fabien, c'est un des points, c'est en tout cas qu'on a regardé un petit peu tous les savoirs qui sont produits dans le cadre de ce débat-là sur le changement climatique. Et ce qui est frappant, c'est de voir que c'est des savoirs qui, pour l'époque, sont à peu près au sommet de ce qu'on pouvait faire, j'ai envie de dire. À l'époque, c'était les meilleurs savoirs possibles, j'ai envie de dire, sur le changement climatique. Par exemple, on va se mettre à faire de la thermométrie historique. On va, à partir de la fin du XVIIIe siècle, on commence à avoir une longue durée de registres météorologiques. Les registres météorologiques un peu sérieux, c'est à partir du début du XVIIIe siècle, où les observateurs enregistrent plusieurs fois par jour, à heure régulière, les températures. Et en 1770, il y a des météorologues qui commencent à étudier ça de manière rétrospective et qui étudient l'évolution du climat. Alors, ce n'est pas forcément lié au départ pour étudier le changement climatique. En vérité, c'est pour essayer de corréler la météorologie à l'astronomie et donc rendre la météorologie parfaitement prédictive. Il y a des météorologues qui expliquent que si on arrive à faire ça, on pourra prévoir la météorologie de manière parfaite à l'horizon 100 ou 200 ans, puisque ce sera relié à des phénomènes célestes. Mais ce faisant, par exemple, un Italien qui s'appelle Giuseppe Toaldo montre qu'il y a eu un refroidissement assez considérable à Padoue, trop important sans doute par rapport à ce qui s'est vraiment passé, il parle de 4 degrés au mur, mais ce constat-là, ça entre en interaction avec plein d'autres théories, par exemple la théorie de Buffon, du refroidissement progressif du globe, la Terre, ce serait une sorte de morceau de soleil qui se refroidirait peu à peu. Donc on essaye de faire de produire des savoirs. Alors cette thermométrie historique, elle est très critiquée. Et donc ce qui se passe plutôt, c'est l'étude de proxy climatique. Toujours dans les années 1770, on se met à étudier de manière rigoureuse l'état historique des rivières. À quel moment la Seine, est-ce qu'elle congelait, à comment elle congelait, à quelle date elle congelait, etc. Donc ça, on a des données, enfin les astronomes et les météorologues ont des données anciennes qui sont liées en fait au prévôt des marchands, par exemple à Paris, qui enregistrent l'état de la Seine depuis longtemps, parce que la Seine, c'est une voie d'approvisionnement extrêmement importante. Donc c'est ce type de savoir qu'on produit. On peut aussi étudier l'évolution de la végétation, l'évolution de l'étagement de la végétation. Les naturalistes savent évidemment que c'est des essences différentes qui poussent à différentes altitudes. Ils essayent de trouver des traces historiques et par exemple, ils sont très surpris de voir par exemple des troncs de vieux mélèzes à des endroits où les mélèzes ne peuvent plus pousser. Et on étudie évidemment les glaciers qui, à partir de, et je dirais à partir des années 1760, on a des études extrêmement précises sur historiques, en étudiant les cadastres, etc., sur l'évolution des glaciers. Donc c'est vraiment un sujet qui est traité scientifiquement. On en parle à l'Académie des sciences, à la Royal Society, enfin, la question du changement climatique est scientifiquement importante. Et elle est évidemment économiquement fondamentale, puisqu'on est dans des sociétés agraires, où l'essentiel de la richesse provient de la terre, hein, du sol, et la question de qu'est-ce que sera le climat à l'horizon 20 ou 30 ans est une question économiquement hyper importante. Par exemple, en 1780, les oliviers en Provence gèlent, 1784. Question, est-ce qu'on doit replanter des oliviers ? Un olivier, c'est productif au bout de 25 ans, donc c'est un gros investissement. Si dans 25 ans, il fait plus froid, a priori, il faut passer à autre chose. Donc il y a des débats, disons, économiques sur la bonne gestion des territoires qui ont besoin de savoir d'anticipation climatique. C'est des questions qui sont économiquement importantes, c'est aussi des questions qui sont politiquement déterminantes, puisque, évidemment, on est aussi dans des sociétés où le moment de la soudure, le moment du printemps, est toujours politiquement délicate à gérer pour les gouvernements parce qu'il y a une augmentation du prix du blé qui peut vite fomenter des émeutes sur les marchés, voire des révolutions. Donc c'est vraiment une question hyper importante politiquement, scientifiquement intéressante. Et donc le point que je voulais dire pour conclure, je ne sais pas combien de temps que je parle, mais 2-3 minutes. Bon. En gros, après la Révolution française, Il y a des savoirs sur le changement climatique lié à la déforestation. Ce qui est impressionnant, c'est de voir, j'ai déjà un peu dit, mais au moment de la Révolution française, c'est vraiment le thème de l'effondrement qui s'impose. C'est un discours de l'effondrement qui est porté par des agronomes pour essayer d'expliquer aux paysans qu'il faut respecter les forêts, sachant qu'on a supprimé les droits féodaux qui est autant de monopoles sur des ressources naturelles. Il faut re-réguler les usages de la nature. Et c'est un discours qui devient, porté aussi pour des raisons de colonisation. Ça va être défendu dans les années 1830 par les colons français en Algérie pour justifier la colonisation en disant les Arabes ont mal géré la nature, ils ont déforesté leur pays, ils ont changé le climat et ce faisant, ils ont produit leur propre dégénérescence raciale. Donc il y a un discours très orientaliste qui met en avant la question du changement climatique et la transformation des races. Oui, parce que le changement climatique est d'autant plus important qu'à cette époque, le climat, c'est aussi ce qui détermine la forme des corps, le niveau d'organisation politique et tout, pensez à Montesquieu. Donc c'est le discours de l'effondrement qui l'emporte dans les années 1820-1830. Voilà, bah, je vais peut-être m'arrêter là. Peut-être deux mots pour dire pourquoi on a oublié tous ces débats. Il y a deux raisons principales. Premièrement, la science avance et par exemple, au sein de ces débats climatiques, il y a la théorie des glaciations qui émerge. C'est en Suisse qu'elle apparaît, cette théorie-là, l'idée que dans le passé, la Terre était beaucoup plus froide et qu'il y avait d'énormes glaciers qui couvraient une bonne partie de l'Europe du Nord. Cette théorie-là, elle émerge en Suisse parce qu'on s'intéresse à la question du changement climatique et du refroidissement de la Terre. Les Suisses sont très en avance sur ces études des glaciers parce que quand ils étudient les glaciers, ils pensent voir, en fait, prédire la mort thermique du globe. Donc il y a vraiment beaucoup de recherches là-dessus et ça aboutira à la théorie des glaciations. Mais la théorie des glaciations, c'est aussi une manière de dire finalement que l'homme n'est pas grand-chose face à ces grandes variations climatiques. Et plutôt que la vision d'une Terre qui peut être profondément transformée par la déforestation, par l'agir humain, on a plutôt la vision de grands cycles climatiques au sein desquels l'homme n'est pas grand-chose. L'homme est pris dans ces grands cycles climatiques. Donc dans la seconde moitié du 19e siècle, quand vraiment la théorie de la déglaciation s'impose, ça a tendance à remettre en cause ces théories anthropiques du changement climatique. Puis il y a une autre raison qui est sans doute plus fondamentale, c'est que dans la seconde moitié du 19e siècle, je ne sais pas si c'est une forme d'arrachement, mais il y a une forme en tout cas, disons, de désintérêt vis-à-vis des climats, du climat. On le voit très bien dans les archives départementales. Il y a des enquêtes très précises pilotées par les préfectures météorologiques pour prévoir quelle va être la récolte suivante, des séries continues à partir de 1815 jusque dans les années 1840-1850, et puis ça finit par s'affaiblir, tout simplement parce que la question du climat, la question des récoltes est beaucoup moins importante à partir du moment où on a des chemins de fer, où on peut approvisionner certaines régions de France, s'il manque du blé quelque part, on pourra toujours amener du blé qui aurait été produit ailleurs. Et puis avec la globalisation économique, encore plus. Le cours des céréales s'effondre dans la seconde moitié du 19e siècle avec l'entrée en scène des pays neufs, l'Amérique et la Russie en particulier. Donc, en gros, je dirais que la science et l'industrie, avec le chemin de fer, mais évidemment, ce n'est pas que le chemin de fer, ont tendance à créer cette illusion, finalement, du climat comme quelque chose de à la fois stable et relativement inoffensif. Et cette impression de grande révolution cosmologique, c'est simplement qu'on avait oublié à la fois cette histoire et à la fois cette construction progressive d'ignorance, finalement, sur ces questions climatiques.
Merci. Donc, on voit que le climat était déjà global et déjà mouvant au XVIIe et XVIIIe siècle. Et Hélène Guillemot du Centre Coëré, qui est une spécialiste de l'interface entre science et politique du climat. On va sauter justement cette période de la fin du 19e à la fin du 20e, où peut-être ça bouge moins, mais Hélène va partir de la fin du 20e siècle pour montrer comment le climat est redevenu global et mouvant, peut-être sous d'autres formes.
Oui, merci. En fait, pas de la fin, du milieu du 20e siècle. Donc moi, je vais effectivement m'intéresser au climat, pas aux sciences du système Terre, aux sciences du climat. Les sciences système Terre, sous cette appellation, sont apparues à peu près assez récemment, vers 1980. Moi, je m'intéresse au changement climatique et je vais me demander quelle est la fabrique de la globalité dans le changement climatique. Comment ce cadrage global du climat et du changement climatique s'est imposé donc à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Je vais d'abord parler de la construction scientifique de ce climat global, du rôle du politique ensuite, même s'ils sont en fait très mêlés. Et puis après, je me demanderai un petit peu quelles sont les critiques qu'ont soulevées finalement ces visions très globales. Donc la carte que vous voyez ici, ce n'est pas une carte du climat global, c'est une carte des climats régionaux, absolument classiques, tels qu'ils ont été définis vers 1880 par Vladimir Köpper, dans un ouvrage qui a été réédité pendant plus de 50 ans. Et la climatologie à cette époque, c'était une science statistique, empirique, qui étudiait des types de temps dans différentes régions du monde, climat méditerranéen, climat, etc. Bon, certains l'ont peut-être appris à l'école. En France, jusqu'aux années 60 ou 70, la climatologie, c'est une sous-discipline de la géographie physique. Et le climat, en fait, est étudié plutôt comme en fait des causes d'autres phénomènes agricoles ou urbanisme, etc., que comme ce qui sera plus tard, c'est-à-dire la conséquence de facteurs physiques. Alors, si la climatologie est en quelque sorte régionale, en revanche, la prévision météorologique est globale ou relativement globale, si je puis dire, depuis assez longtemps. Les stations d'observation de météo sont les premières utilisatrices de la communication des télégraphes, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que les dépressions et les tempêtes se déplacent et sont relativement prévisibles à condition de disposer de mesures réparties sur une grande partie du globe, en Europe en l'occurrence. Et l'Organisation météorologique internationale est mise en place dès 1873 pour standardiser, harmoniser les mesures et les transmissions. Donc c'est une des premières, pas la première, mais une des premières organisations scientifiques internationales. Et à l'époque, la prévision consistait essentiellement à suivre des trajectoires de perturbations sur des cartes. Tu peux me passer le... Merci. Les choses, évidemment, vont changer avec l'avènement des ordinateurs. La modélisation par ordinateur, elle a une de ses premières utilisations, c'est précisément la prévision du temps. Dès la fin des années 40, les ordinateurs, les tout premiers ordinateurs, comme on voit ici, ont été utilisés pour les tout premiers modèles de prévision, et c'est la première utilisation après les bombes nucléaires. Les ordinateurs permettent des calculs longs, des calculs difficiles et de rassembler un très grand nombre de données. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, que la prévision par ordinateur a rejoint la météorologie dynamique, c'est-à-dire la théorie du déplacement des masses d'air et la climatologie. Les trois se sont réunis dans une seule discipline qui est la météorologie. Donc ces modèles, les premiers modèles de prévision, sont pratiquement tout de suite globaux. Les tout premiers, en fait, recouvrent seulement la surface des États-Unis, mais très vite, ils sont globaux, simplement parce que prévoir le temps dans un pays, ça suppose qu'on ait des données d'observation sur toute la planète à cause de la vitesse de circulation de l'atmosphère. dès le milieu des années 50, donc très peu après, les mêmes chercheurs qui avaient mis au point les premières prévisions numériques du temps, aux États-Unis à Princeton, dans le laboratoire de Princeton, sur l'ordinateur que vous avez vu tout à l'heure, là, dans la dernière diapo, développent avec pratiquement les mêmes algorithmes qui sont en fait des simplifications des équations de la mécanique de fluide adaptées à l'atmosphère, développent les premiers modèles de circulation de l'atmosphère qui sont les ancêtres des modèles de climat et qui sont évidemment globaux puisque cette circulation est planétaire. Donc, les grands traits de la circulation atmosphérique, en fait... les grands traits de la circulation atmosphérique sont donc étudiés à l'échelle planétaire dès les premiers modèles de climat, mais en fait, ils l'étaient déjà depuis qu'on étudie la circulation de l'atmosphère au XVIIIe siècle, donc bien avant les ordinateurs, comme vous voyez sur le schéma. Donc, si les modèles numériques sont des très puissants instruments dans la globalisation du climat, ce ne sont pas les seuls, évidemment. L'effet de serre du CO2, qui est connu depuis le début du XXe siècle, mais qui n'est considéré comme vraiment dangereux et préoccupant pour l'avenir de la Terre que bien plus tard, à la fin des années 70, a été néanmoins une préoccupation d'un climatologue et océanologue qui s'appelle Roger Revel, américain. Et dès 1957, Roger Revel propose de mesurer le CO2 de l'air et un de ses étudiants, David Keeling, conçoit et installe à Hawaï, en haut du volcan Mauna Loa, le premier instrument de mesure du CO2 qu'il a mis au point, qui est très astucieusement, et dont la courbe montre de façon extrêmement claire l'accroissement de la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est ce qu'on appelle la courbe de Keeling, et c'est devenu une icône du changement climatique et une icône de la du caractère global de ce changement. Parce qu'en fait, en mesurant le CO2 en un seul lieu, en haut de ce volcan, on a d'emblée une mesure globale en raison du fait que la concentration du CO2 est à peu près la même partout. Alors, en fait, évidemment, comme toujours en science, c'est pas tout à fait vrai. La concentration du CO2 varie localement, selon qu'on est près de forêts, près d'agglomérations, etc. Mais en se mettant en haut du volcan, on a quand même, et avec un instrument très perfectionné, on arrive à avoir une concentration qu'on peut considérer comme globale. Et en fait, cette image de la globalité, elle est ici redoublée. Elle est redoublée par les oscillations annuelles que vous voyez et qui témoignent du cycle global du carbone dans la végétation terrestre, qui tous les ans, la végétation absorbe du CO2 au printemps, le relâche en automne, et on a ici une autre image de la globalité du climat. Donc, les molécules de CO2, elles se mélangent très vite à l'atmosphère, à l'air, elles circulent autour du globe, et le réchauffement par effet de serre est donc bien global, indépendant du lieu d'émission du CO2, et aucun lieu sur la Terre n'échappe à ce réchauffement global, même si, en fait, les manifestations de ce réchauffement, elles, sont beaucoup plus locales et beaucoup plus différenciées. Donc ça, c'était un petit peu pour l'aspect scientifique de la globalisation, mais cette globalité n'est pas seulement le résultat des propriétés de l'atmosphère et de la modélisation numérique. Elle a aussi été façonnée par la politique, et tout particulièrement par la politique des États-Unis. Alors les modèles, évidemment, ils ne fonctionnent pas tout seuls, ils s'appuient sur des mesures et des observations, et dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et en fait jusqu'aux années 70, c'est beaucoup les gouvernements et l'armée américaine qui ont favorisé les avancées des sciences de la Terre. En ces années qui sont des années de menace de guerre totale, les États-Unis considèrent qu'il est stratégique pour eux de connaître leur environnement physique, l'environnement physique de l'ensemble du globe, et les budgets militaires états-uniens financent très largement l'exploration et l'instrumentation des pôles, des océans, de l'atmosphère et même de l'espace. Mais il n'y a pas seulement une logique de guerre. À côté de cette logique, la politique étrangère américaine juge aussi la coopération scientifique internationale comme cruciale pour la prospérité et la sécurité des États-Unis. La science est promue à cette époque comme neutre, apolitique et véhiculant des idéaux de liberté qu'il faut répandre face à l'URSS. Et donc, ce sont à la fois des années de guerre froide et des années d'internationalisme scientifique. Et les institutions qui sont créées contribuent à l'édification du climat global. Alors, la première de ces institutions, c'est l'Organisation météorologique mondiale. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'Organisation météorologique internationale. L'OMM, l'Organisation mondiale, lui succède peu après la guerre comme agence des Nations Unies chargée de relier tous les services de prévision du temps avec des échanges de données et des standardisations des mesures. Et sous l'égide de l'OMM, une véritable infrastructure planétaire d'acquisition de données est créée avec des réseaux d'observation terrestre, maritime et les premiers satellites. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'état beaucoup plus récent. Voilà, c'était ça. Donc là, vous voyez l'infrastructure de tous les réseaux terrestres, maritimes et spatiaux d'observation qui contribuent évidemment grandement à la construction de ce climat global. Une autre manifestation... Une autre manifestation des liens entre sciences et politique en tous ces temps de guerre froide, c'est l'année géophysique internationale qui a rassemblé 67 États, donc elle a eu lieu en 57 et 58, elle a rassemblé 67 États dont l'URSS, mais pas la Chine, avec de très nombreuses réalisations scientifiques, techniques, institutionnelles, des lancements de satellites, là vous voyez Spoutnik, donc là on est vraiment dans le cadre de la guerre froide, mais aussi des collaborations scientifiques, notamment la mise en place de bases et de projets de recherche dans les régions polaires, au Groenland et à Vostok en Antarctique, c'est ce que vous voyez dans la photo. Dans ces bases polaires sont réalisées avec les soviétiques, hein, dans le cas de Vostok, il y a des Français et des soviétiques qui ont travaillé ensemble, des forages de la glace qui ont été d'une très grande importance ensuite pour la connaissance des climats passés et donc aussi pour les sciences du changement climatique. Et d'ailleurs, la station de mesure de Mauna Loa, la mesure du CO2, dont j'ai parlé tout à l'heure, fait aussi partie des instruments qui ont été financés dans le cadre de cette année géophysique. Une autre manifestation, mais je vais aller peut-être plus vite, scientifique internationale qui a contribué à cette globalisation, c'est le programme scientifique GARP. GARP, ça veut dire Global Atmospheric Research Program, qui a été lancé à l'initiative du président Kennedy en 1961, même si le programme lui-même, les expériences ont eu lieu plutôt dans les années 70, qui a été soutenu par les plus grands scientifiques et météorologues qui ont beaucoup poussé la mise en place d'un système d'observation atmosphérique globale. Et d'ailleurs, il a été aussi très important pour la climatologie française, puisque le premier grand laboratoire de climatologie, laboratoire de météorologie dynamique à Paris, a été créé en 1968, en grande partie pour prendre part à ce programme. Le LMD développera des satellites d'observation en lien avec le CNES, des réseaux d'instruments de mesure, là on voit le lancement de ballons pour l'observation dans des régions où il y avait peu d'instruments, et le premier modèle numérique de climat français dont est issu le modèle actuel qui a donné les résultats dont Christophe a parlé. Je continue pour dire qu'ensuite les questions d'environnement ont pris de l'importance à partir des années 70, que est créé le programme mondial de recherche sur le climat qui prend la succession de GARP et qui va lui aussi jouer un rôle absolument déterminant dans la globalisation du climat en coordonnant tous les efforts des communautés scientifiques mondiales sur le climat. Et par exemple, c'est sous l'égide de ce programme que sont coordonnés et intercomparés tous les résultats des modèles de climat du monde entier. Et donc, ces modèles qui forment la base des rapports du GIEC. Et en 88, est créé le GIEC, justement, sommet aussi de la globalisation du climat. Puis en 92, la Convention cadre du climat, qui va organiser les COP chaque année, dont vous voyez ici quelques exemples. Avec ces institutions, le changement climatique est devenu un problème scientifique global qui doit être traité à l'échelle internationale, un problème d'émission de CO2 qui ne peut être résolu qu'en réduisant les émissions de CO2 grâce à des accords internationaux. Alors oui, justement, il me restait les critiques. Alors les critiques, très vite. Donc toute cette globalisation a été critiquée par Taylor et Buttel, dont a parlé Christophe, donc je ne vais pas revenir là-dessus peut-être, qui ont dit, je vais quand même citer leur phrase, « Les problèmes environnementaux tels que définis globalement par les sciences privilégient une approche à la fois morale et technocratique de l'action, en passant sous silence les divergences et contradictions politiques. » Voilà. Alors, j'irai pas plus loin. Autre type de critique, la critique des pays en développement, qui ont critiqué les modèles comme ne tenant pas compte de l'origine des gaz à effet de serre, les mettant tous à égalité sans tenir compte des conditions de leur production et en confondant les molécules des émissions de survie des pauvres avec les émissions de luxe du Nord et des riches du Nord. Autre critique, celle des géographes, hein, qui ont un petit peu dénoncé la simplification, une méconnaissance de la variabilité, de la complexité, de la multiplicité des phénomènes, l'attribution au seul changement climatique d'évolutions qui ont des causes plus complexes. Ils ont dénoncé une vision décontextualisée et qui efface les différences culturelles et locales et écrase les échelles au profit de la seule échelle globale. Et je voulais juste finir en disant que, en fait, cette globalisation, elle a montré ses limites avec la COP de Copenhague, qui n'a pas réussi à produire un accord entre tous les pays, et où l'approche globale du partage de fardeaux pour la réduction des émissions a été remplacée par une approche où chaque pays s'engage sur des réductions d'émissions volontaires. Et alors qu'on disait que le changement climatique était défini comme un problème global ne pouvant se résoudre qu'au niveau planétaire, eh bien maintenant, on dit que c'est un problème qui doit se résoudre au niveau local. Donc,
merci, je suis désolée, tu as été un peu vite sur la fin, mais du coup, ça va laisser plein de questions possibles. Et donc, notre dernier intervenant à table ronde est Sébastien Grevesmühl, qui est chercheur au Centre de recherche historique et qui a écrit un livre, c'était 2015, qui s'appelle « L'invention de l'environnement global ». Pardon ? C'est le sous-titre, pardon. « La Terre vue du ciel », l'invention de l'environnement global.
La Terre vue d'en haut.
Vue d'en haut. Oui. C'est une discussion qu'on avait eue d'ailleurs à ce propos parce qu'on voulait faire un petit clin d'œil à Artus Bertrand dans le titre, mais finalement on n'avait pas osé aller jusqu'au bout des choses. En tout cas, tu vas nous parler surtout des images de l'environnement global.
Exactement, oui. Merci Christophe et bienvenue tout le monde. Alors moi je vais parler des cultures visuelles et des perspectives et contributions des cultures visuelles à la question des... justement de l'environnement global, de la visualisation de l'environnement global. Et moi, je vais être assez court. Je vais vous présenter surtout beaucoup d'exemples, beaucoup d'images. Et pour vous montrer justement comment, dans une perspective historique, comment on a construit cet environnement global dans différentes manières, de différentes façons, et aussi avec dans des traditions différentes. Je vais vous montrer différentes traditions parce qu'il y a aussi des continuités dans ces perspectives visuelles que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer par une tradition qui est celle de l'isoligne, parce que la ligne de contour que vous connaissez tous de vos cartes de randonnée ou de cartes topographiques, mais là je vous montre une ligne de contour qui est différente, qui montre un phénomène géophysique complètement invisible, justement ici un phénomène magnétique, géomagnétique, mais je vous la montre pour montrer une longue tradition d'un outil visuel qu'on a développé relativement tôt et qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui dans les projections climatiques. Alors, l'isoligne, elle a été beaucoup popularisée par Alexandre de Humboldt au début du 19e siècle, quand il a justement introduit cette carte sur l'hémisphère nord, où il montre justement ces fameux isothermes, où il montre justement des bandes climatiques, si on veut. L'une des premières cartes, justement, qui sont basées sur pas beaucoup de mesures. Là, à l'époque, on utilisait peut-être une cinquantaine, il a utilisé une cinquantaine de mesures pour produire cette carte de température globale, si on veut. Mais ça, c'est d'ailleurs aussi le grand avantage de l'isoligne ou de la ligne de contour. On ne sait pas combien de mesures il y a derrière. Vous pouvez produire. Elle crée l'illusion de mesure continue sur un espace relativement grand. Et pareil, quand on passe après vers les cartes des isothermes qui sont en lien aussi avec l'agriculture, parce que Humboldt il s'intéressait bien sûr pas seulement aux isothermes, mais il s'intéressait aussi bien sûr à la géographie des plantes et les productions agricoles. Et ces productions agricoles, elles ont été mises bien sûr tout de suite en lien avec les isothermes, avec les isolines et les zones climatiques. Et ici, un exemple où on a poussé un peu plus loin cette analyse de Humboldt pour faire déjà une carte plus globale. Et vous voyez aussi que les isothermes deviennent de plus en plus ondulés, avec plus de mesures qu'on intègre. Et cela va se poursuivre tout au long du 19e siècle, où ces cartes vont se complexifier. Des régions vont être plus accessibles aussi pour des nouvelles données. Et on se retrouve finalement dans les rapports du GIEC d'aujourd'hui, les plus récents rapports, où vous avez bien sûr le même outil qui est utilisé toujours dans les projections climatiques, aussi pour maintenant pour les climats futurs. Et les climatologues les utilisent régulièrement et on les connaît bien sûr aussi pour d'autres phénomènes géophysiques, pas seulement pour le climat, mais comme vous voyez ici, aussi en bas ici, on utilise bien sûr le même outil visuel pour les précipitations. Vous avez la même chose bien sûr pour la température de la surface de la mer, mais pour toutes sortes de phénomènes géophysiques globaux et bien sûr aussi dans plein d'autres disciplines scientifiques où il s'agit de visualisation scientifique, on l'utilise aussi bien sûr. Alors ça c'est juste pour montrer qu'on peut écrire un peu une longue histoire d'outils visuels de la pensée globale en termes géophysiques. On peut l'écrire bien sûr aussi pour la Terre vue de l'espace, cette Terre imagée, Jean-Baptiste Fressoz, il a montré un globe suspendu qu'on a vu déjà un exemple beaucoup plus précoce. Mais dans cette tradition-là, où on voit la Terre avec dotée d'une atmosphère comme une planète vivante, ce sont des images relativement récentes qui datent seulement du 19e siècle. Une historienne de l'art qui s'appelle Elsa de Smet, elle en a écrit un peu cette histoire dans son livre Voir l'espace, où elle retrace un peu l'histoire de vues de la Terre de l'espace, et notamment aussi en conjonction avec avec la Lune au premier plan, et on essaie justement de montrer la grande divergence entre la planète morte de la Lune la planète vivante Terre. Et on peut aussi écrire une histoire comme ça, bien sûr, avec au 19e siècle, c'est bien sûr les astronomes qui sont aussi très engagés pour la popularisation des sciences, qui vont montrer bien sûr beaucoup de ces images de la Terre vue de la surface lunaire. Quitte à l'époque, encore la Lune est encore très avec beaucoup de montagnes, comme vous voyez, c'est encore un espace très un peu mystique, qui qui se poursuit aussi en Allemagne avec Max Meyer qui va utiliser ça pendant ses démonstrations à l'Urania et qui va se poursuivre avec Lucien Rudeau qui est un peu l'inventeur du space art, c'est-à-dire d'un style esthétique particulier pour montrer ces mondes extraterrestres qui perdurent jusqu'à Stanley Kubrick avec Odyssée de l'espace et que la NASA utilise encore aujourd'hui quand elle va montrer des mondes ailleurs, comment on va explorer. Est-ce que c'est des mondes possiblement habitables, etc. C'est on peut écrire cette lignée esthétique, comme l'a fait Elsa de Smet, justement, pour cette imagination du global, parce qu'en effet, il s'agit ici aussi, bien sûr, de voir la Terre de loin, justement en contraste à cet espace extraterrestre complètement inhabitable et austère à la survie humaine, bien sûr. Et quand Stanley Kubrick il a fait son film Odyssée de l'espace, il était déjà bien plein dedans dans l'époque spatiale, dans la course à la Lune et les images imagées, c'est-à-dire cette space art, ce courant esthétique de l'art qui montre la Terre de loin, a été remplacé bien sûr par des objets, par des documents, une documentation prise de l'espace avec des photographies. Et justement ici la première photographie spatiale réalisée avec une V2 dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis. Quand on a récupéré les V2 de l'Allemagne, on les a amenés aux États-Unis pour justement faire des programmes conjoints militaires avec des universités qui ont lancé justement ces expériences qui ont un produit à côté, c'était justement des sous-produits, c'était aussi des vues de la Terre vues de loin de l'espace. Alors on peut ça peu à peu rentre les systèmes météorologiques rentrer aussi dans ces visions-là, ici un mosaïque avec ces premières photographies réalisées aussi avec les fusées Aerobee qui ont succédé, les fusées V2. Et vous connaissez tous, bien sûr, les images des missions Apollo. C'est un peu avec le lever de terre et la terre, l'habit bleu de Apollo 17, qui sont devenues un peu, bien sûr, les images du mouvement environnementaliste, les icônes du mouvement environnementaliste, mais elles n'ont pas seulement une lecture simple, elles n'ont pas proposé une lecture très, très uniforme, mais on a bien sûr imaginé en même temps, ça a inspiré des projets beaucoup plus technocratiques, des projets du contrôle total de la Terre, on a parlé de la géo-ingénierie. Cette vision, elle a bien sûr aussi pas seulement inspiré le mouvement environnementaliste, mais aussi des projets de géo-ingénierie, etc. Alors, ça, c'est une deuxième ligne que je vous voulais montrer, qu'on peut poursuivre aussi un peu dans la longue durée. Et pourquoi c'est important? Parce que, oui, on a, bien sûr, des documents satellitaires, après ces documents photographiques, qui ont rendu maintenant, bien sûr, l'environnement global accessible à toute heure et plusieurs fois par jour, mesuré, avec des quantités de données énormes. Et la bille bleue d'Apollo 17, elle est devenue un peu ce visiotype, une icône qu'on essaye de reproduire constamment aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup ou plusieurs missions satellitaires qui ont reproduit justement cette vision d'Apollo, MODIS en 2002, ou bien le satellite japonais Suomi en 2012, ont reproduit cette icône d'Apollo 17 encore aujourd'hui avec des nouvelles données et avec de nouveaux modèles et justement maintenant des données satellitaires et plus juste des photographies. Et pourquoi c'est important? Parce que bien sûr on montre évidemment comme ici, pas seulement il y a la bille bleue, maintenant il y a aussi la bille noire, c'est-à-dire où on montre les grandes agglomérations pendant la nuit, ou bien on utilise le même modèle dans les fameuses planetary boundaries, les limites planétaires que Christophe Bonneuil il a mentionné dans l'introduction, c'est l'arrière-plan, bien sûr, de toute vision globale sur la Terre. Et elle est aussi le modèle pour, par exemple, elle était le modèle pour comment visualiser le trou de la couche d'ozone, comme ici dans ces images-là, ou depuis la création du Scientific Visualization Studio de la NASA dans les années 90, quand on a pris, bien sûr, ces modèles globaux, disons, ça s'inscrit bien sûr dans cette même tradition des visions globales que Apollo 17 a popularisé dans les années 70. Alors, ça, c'est deux lignes qu'on peut poursuivre, que je voulais montrer. Et je pense que ce qui est important aussi, comme troisième point de retenir, c'est justement pour revenir à Humboldt, qui n'a pas fait seulement populariser les isothermes, les isolines, mais qui a aussi, bien sûr, qui avait une vision d'une unité de nature, aussi à partir d'une inspiration artistique. Pourquoi les artistes étaient intéressants pour Humboldt? Parce qu'il était intéressé dans le coup d'œil d'un artiste qui peut rendre cette unité de la nature visible de façon, l'artiste, disons, de façon intuitive, mais lui, il voulait le faire de façon scientifique. Et ici, le fameux tableau des ondes de Chimborazo, et il permet ça parce que la montagne, à l'époque de Humboldt, elle est bien sûr le modèle de la Terre entière. Parce que si une montagne est assez haute, elle permet de faire l'analogie entre la latitude et l'altitude. Et cette analogie qui permet de faire d'une montagne une vision sur la Terre entière, c'est cette analogie qui a fait de la montagne le lieu privilégié. Mais ces géographies, elles ont changé autour du monde. Le 19e siècle, la montagne, le 18e, 19e siècle, la montagne était importante. Aujourd'hui, on parle plutôt des pôles, on parle des tropiques. C'est là où on produit les savoirs de l'environnement global aujourd'hui. On est passé en quelque sorte aussi d'une vision statique du paysage, parce que finalement, c'est ce qui a inspiré Humboldt. C'était ce qui suivait un peu après sur ces parcs naturels aux États-Unis, comme Bierstadt, qui savait intuitivement rendre cette unité écologique de tout le paysage, de le rendre cela accessible et visible. Et là, il a fait ça dans ces grands tableaux très romantiques des parcs naturels états-uniens. Et cette unité de la nature, elle pouvait être représentée comme ça, mais elle est relativement statique. Elle est inspirée par le temps long, par le temps géologique, mais ça bouge pas beaucoup, bien sûr. Or, aujourd'hui, on est passé à une vision beaucoup plus dynamique. On est passé du paysage à des visions beaucoup plus globales, c'est-à-dire d'en haut. On a quitté en quelque sorte la vision d'un paysage pour aller vers l'auteur et pour quitter un peu la Terre pour la voir d'en haut. Et on a quitté aussi ce temps, on le voit bien, par exemple, quand on voit les dernières projections climatiques, on parle, par exemple, d'isothermes qui bougent. On voit des climats, on est hanté par l'invasion des tropiques chez nous. On est dans une pensée beaucoup plus mobile des climats. Et voilà, c'est ce que je voulais montrer avec dans ce grand panorama des différentes images qu'on peut regarder dans le temps long. Et juste pour finir avec cet exemple, aujourd'hui on revisite Humboldt justement pour regarder comment l'agriculture elle est devenue beaucoup plus intensive. Regardez comment le recul des glaciers, comment on peut l'observer sur le Chimborazo, etc. Disons, l'environnement global, les changements environnementaux globaux, ils s'inscrivent aussi, bien sûr, dans le tableau de Humboldt, mais aujourd'hui, on a une mobilité beaucoup plus importante des climats, des mouvements des glaciers, etc. Voilà, c'est un peu ça l'idée que je voulais montrer. On peut revenir, même aujourd'hui, au tableau de Humboldt comme une source pour étudier les changements environnementaux globaux. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup pour ces trois interventions extrêmement riches.